on n'est pas en mai 68. Alors en attendant le retour des pseudo-révolutionnaires de Saint-Germain-des-Prés, gardons-nous d'oublier que leurs plus grands supporters sont des islamistes qui se réjouissent de leurs actions, notamment depuis Téhéran. Et oui, on a les soutiens que l'on mérite. On va en débattre ce soir dans Punchline.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Mathilde Panot et Rima Hassan de la France Insoumise ont été entendus par la police aujourd'hui pour apologie du terrorisme. Une audition qui fait suite à des propos liés à la guerre au Proche-Orient et surtout au massacre du 7 octobre. Ces convocations au commissariat ont été qualifiées de censure par la France Insoumise. Un nouveau record du nombre de détenus en France. Au 1er avril, plus de 77 450 personnes étaient incarcérées dans les prisons françaises. C'est 4 300 de plus que l'an dernier. Des chiffres communiqués par le ministère de la Justice, la densité carcérale globale s'établit aujourd'hui à 128,5%. 125,8% pour être très précis.
C'est pas ce que c'est de la dette
française. Allez, on parle de la chaleur extrême qui continue d'accabler l'Asie du Sud-Est. Le thermomètre est monté jusqu'à 48 degrés. Par endroits comme aux Philippines ou au Bangladesh, des températures extrêmes que même les populations pourtant habituées aux fortes chaleurs ne parviennent plus à supporter. Enfin, 207e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français, vous le savez, ils se nomment Ofer, Orion, Orhad. Nous pensons à ces otages ce soir, à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. 18h de pratiquement sur CNews et Europe 1, Louis Dragnel est là, bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Mon cher Louis, François Pupponi, ancien député, Grégory Geron, policier, secrétaire général du syndicat Unité, Sabrina Medjaber, essayiste, et Eric Revel, journaliste.
Mille excuses, hein, je vous ai coupé la parole.
Oui, vous avez pris la parole pendant le rappel des titres.
La dette française par rapport au PIB, c'est quasi...
C'était sur la surpopulation carcérale.
Oui, c'est à 120 et la dette française...
125,8 en fait. J'avais un peu inversé les deux chiffres. On va évoquer la France insoumise, comme je l'évoquais dans mon petit sommaire, mais d'abord, j'aimerais juste que l'on reparle de ce qui s'est passé à Châteauroux et de la mort du jeune Mathis, 15 ans, poignardé par un adolescent de nationalité afghane. L'enquête se poursuit. Le suspect a été écroué. Sa mère, âgée de 37 ans, a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable et elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. On fait le point avec Maxime Lavandier sur les dernières avancées de l'enquête.
Plusieurs coups de couteau, dont un au cœur, auront été fatals au jeune Mathis. Tout part d'une insulte que l'adolescent aurait adressée à son agresseur, ainsi qu'un coup de poing qui lui aurait asséné. Pris par la colère, l'agresseur de Mathis serait alors retourné chez lui pour s'emparer d'un couteau, avant de revenir auprès de la victime pour le poignarder, puis de s'enfuir. Des circonstances qui restent encore à déterminer, le père de Mathis appelle à la prudence.
Personne ne sait ce qui s'est passé, j'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura, ça avance bien déjà. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil, donc on va rester dans la gentillesse, et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit.
Alors qu'il agonisait, la mère de l'agresseur de 15 ans a ensuite asséné plusieurs gifles à la victime. La femme est connue pour son agressivité, un comportement que nous confirme cette habitante du quartier.
Il y avait déjà eu une altercation avant, j'étais au jeu là-bas, Mathis était... je peux discuter avec Mathis. La maman du petit jeune qui est passé à l'acte, elle l'avait insulté parce qu'elle avait fait un petit bruit à la fenêtre, il s'était retourné, il l'avait regardé, puis elle lui avait dit « toi... enfin, tourne ta tronche, arrête de nous regarder. » Puis on m'avait dit, voilà, toi, sale p***e. Enfin voilà, il y avait vraiment une tension. Hein.
Après sa garde à vue, le mineur est actuellement placé en détention provisoire. Quant à sa mère, elle est placée sous contrôle judiciaire strict.
Grégory Geron, vous êtes policier. On a entendu l'immense dignité du papa de Mathis. C'est vraiment c'est respect total pour sa famille, le drame qu'il traverse et la façon dont il dit attention, ne faites pas l'enquête avant l'enquête. Voilà. Et ça, c'est important de le dire, vous, en tant que policier aussi.
C'est essentiel et ça n'empêche pas le débat de fond, etc. Mais en effet, je crois qu'il il l'a dit aussi, ça sera long. C'est ce qui est le plus difficile d'ailleurs pour les victimes et leur famille en général. C'est ce besoin de comprendre, de refaire l'histoire, de savoir exactement quelles sont les responsabilités et de poursuivre une instruction sereine. Donc, évidemment, ça n'empêche pas le débat de fond, en effet, sur cette ultra-violence des mineurs et ce qu'on pourrait trouver comme solution pour essayer de l'endiguer. Mais pour autant, quand on a des faits comme ça, on peut, en dehors de l'émotion qu'elle génère, forcément rappeler qu'on a besoin de simplement de laisser faire l'enquête et les enquêteurs.
Oui, et que personne ne mérite de mourir à 15 ans poignardé.
Ça me semble évident.
Pour peut-être un mauvais mot.
Oui.
Alors, Louis de Ragnel, la famille était bien connue dans le quartier.
Ah oui, c'est une famille qui terrorisait tout le monde. Une fratrie avec qui il y avait 4 frères et sœurs. Enfin, il y a 4 frères et sœurs. Même les policiers ne savaient plus quoi faire. Évitaient le contact avec ce jeune-là parce qu'il y en a notamment un qui explique qu'il s'il continuait d'être en confrontation avec ce jeune, il allait lui-même peut-être, je le cite, péter un câble. Mmh. Donc le policier a aucune envie de commettre de perdre la maîtrise de ce qu'il fait à cause.
Donc
de
les policiers les évitaient.
Donc les évitaient, les réprimaient tout le temps. Les policiers subissaient régulièrement des provocations. Donc ils en avaient un peu vraiment ras-le-bol de cette famille. Et en plus, simplement pour terminer, le profil de l'agresseur de Matisse, c'est quelqu'un qui à 2 reprises ces derniers mois a été interpellé.
Et en examen.
Une première fois pour vol aggravé avec violence, donc avec un couteau, le 22 avril dernier, et le 27 février aussi pour un vol de portable avec la menace d'un couteau. Voilà. Donc c'est vraiment la famille caricaturale qui pourrit la vie d'un quartier, des gens qui sont d'origine afghane.
On va y revenir à ce sujet.
Et donc ils sont sans doute arrivés grâce à la générosité de la France. Et c'est ça qui.
En quelle année vous nous avez dit ça?
Ils sont arrivés en 2014.
2014.
Voilà. Et donc le jeune homme en question est quand même né à Kaboul.
Né à Kaboul.
Donc voilà, c'est des gens qui ont bénéficié de la bienveillance et de la générosité de la
France.
La réaction de la famille, c'est que depuis hier, ils essayent de justifier ce qui s'est passé.
La famille,
la famille de l'agresseur.
Ah oui, de l'agresseur, oui.
La mère est venue frapper au sol la victime, considérant qu'il avait eu tort. Voilà. Et le frère dit oui, mais mon frère, il avait le nez cassé, il me saignait du nez, justifiant l'injustifiable. Ouais, c'est ça qu'elle dit. Au lieu de dire c'est terrible, on est catastrophé parce qu'il. Non, on essaie d'expliquer qu'après tout, il avait peut-être raison d'aller le tuer parce qu'il avait pris un coup de poing.
Mon Dieu. Il n'y a pas d'empathie, de toute façon, c'est ces gens. Il n'y a pas de jalon clinique. Comment dire, de surmoi, de compréhension de l'altérité, d'empathie, etc. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un atavisme culturel, hein, c'est quand même l'Afghanistan, pardon, c'est pas, encore une fois, un pays où la vie est belle, où il fait bon vivre. Il y a déjà donc l'atavisme, l'héritage, le legs ancestral, la transmission de la violence comme filiation, comme référence identitaire. Et il y a également la violence qui est exercée au sein même du foyer, parce qu'on peut parler de violence intrafamiliale, puisque si l'enfant déjà lui est violent, c'est que la mère est donc violente, donc il y a déjà une forme de maltraitance intrafamiliale. Ça, c'est le docteur Berger qui en parle très bien, mais c'est également Ruben Rabinovitch. Hein, je vous invite à lire son très grand article dans Marianne, justement, après les émeutes. Il est pédopsychiatre, il a reçu ces jeunes-là après les émeutes, où les jeunes expliquent très bien que au sein même de la famille, il y a des conflictualités qui ne sont pas solvables, il y a des négligences, il y a des maltraitances, et donc la famille est responsable, et c'est là où vraiment on s'aperçoit de l'effondrement de la société, c'est-à-dire que le parent est le complice du gangstérisme, du brutalisme et de la mort qu'inflige son propre enfant à un enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de limite entre l'enfant et l'adulte. Donc, et c'est ça qui est vraiment absolument dramatique. Et quant à, parce que ces familles-là de délinquants, il faut suivre l'exemple de Florence Portelli, récemment la mère de Tavernier, elle a expulsé une famille de délinquants
de son logement
absolument,
social.
Absolument, et il faudrait appliquer, je pense, il faudrait revoir la politique
du logement, dans des HLM.
Absolument, ouais. Suivant certains quartiers qui sont culturellement trop homogènes, ça c'est parce que c'est un vrai problème.
Oui, des ghettos,
on nous assène la mixité sociale, la cohésion sociale. Il faudrait peut-être revoir un nouveau plan de la ville et un nouveau plan du logement en essayant d'expulser ces familles de délinquants.
Et où on les met?
Oui.
C'est une autre question. Où on les met? Dans la nature.
On peut trouver Eric, des solutions. Il y a des mesures d'éloignement.
Et voilà, exactement.
Moins du quartier. Tout simplement qu'il y en ait moins.
Il y en a.
Il faut réduire l'immigration. Il faut arrêter tout ça.
Voilà. Alors attendez, pas tous en même temps. Eric Revel.
L'immigration, c'est encore un autre problème.
Je vais expliquer comment tout parc HLM en France est complètement submergé.
Oui, d'ailleurs, il y a une note.
C'est la politique du peuplement qui est.
Vous avez 2 millions de foyers qui attendent sur des listes d'attente des HLM. Non, mais c'est un sujet. Mais plus globalement, si je peux me permettre, Avec la signature de ce pacte migration et asile, paraphé par le Parlement européen, on va donc devoir, sous peine d'amende, 20 000 euros, je crois, pour un migrant qu'on refuserait, on va devoir essayer...
20 000 euros.
Mm-hmm. On va devoir essayer d'intégrer des gens qui, pour le coup, arrivent de pays différents, avec des cultures différentes. On sait qu'on va sans doute les répartir un peu partout en France. Le maire d'Orléans s'est ému récemment, Serge Grouard, je crois, son nom, qu'il avait découvert un jour, a-t-il dit.
Des bus qui arrivent.
Des bus qui arrivaient de
Paris.
Bon,
de Paris.
Alors, très bien, il y en a qui souffrent, il y en a qui sont pour chasser l'empire, tout ça est vrai. Mais comment, très concrètement, intégrer des gens qui ont des référentiels anthropologiques, pour reprendre les termes professionnels, avec des réactions, des repères qui sont différents des nôtres.
Et par exemple, Eric, vous avez raison, sur le fond, sauf que là, moi, ce qui me gêne, c'est que ce type de famille n'est pas concerné par le plan asile-migration, puisque ce sont ils sont bénéficiaires de l'asile.
Il y en a qui vont arriver.
Et le fond du sujet, c'est la question de l'asile. C'est-à-dire qu'on est beaucoup trop généreux. Aujourd'hui, dans quasiment tous les pays d'Afrique, vous êtes éligible à l'asile en France. Et donc, si vous ne réformez pas l'asile, si vous ne restreignez pas les conditions d'accès à l'asile en France, on s'en sortira pas. Et c'est un exemple que je donnais hier, mais que je trouve vraiment parlant. Avant la chute de Kaboul, l'Allemagne, par exemple, n'accordait pas l'asile aux Afghans. J'ai pas entendu beaucoup de gens s'en indigner. À chaque fois, on accorde de manière très très large l'asile à tout le monde.
Combien Eric Revel, aujourd'hui, c'est
même
ils sont premiers.
Dans l'émission de Laurence Ferrari, qu'on dit qu'il faut réformer le droit d'asile.
Mais vous avez entièrement raison. Mais
attendez, ça c'est un sujet. Vous avez raison. Le droit d'asile, il y a.
C'est vous qui avez raison, cher Eric.
Le droit d'asile, c'est.
Comme on ne le fait pas, il
y a un peu. Il y a à boire et à manger. Ça vous va comme formule. Il y a à boire et à manger sur les gens qu'on accueille.
Bien. Oui.
Mais la question, à mon avis, qui est plus large, c'est comment, avec ce pacte qui va devoir être appliqué en France, puisqu'on
voilà, on paye des amendes.
Mais le signal est très clair.
On paye des amendes. Comment est-ce qu'on va
intégrer
des gens?
C'est mettre en place une politique d'accueil d'immigration.
Mais comment vous allez accueillir?
Mais vous avez raison. Non, mais déjà les gens qui sont déjà présents.
Vous parlez tous en même temps.
Les gens qui sont déjà présents sur le territoire français, on voit qu'il y a un nombre incalculable de gens qui sont absolument pas intégrés. Aujourd'hui, globalement, personne ne peut s'intégrer, sauf s'il y a une volonté personnelle extrêmement forte d'émancipation, de libération.
Arrêtons les frères. Alors,
mais donc faut arrêter. Mais on est d'accord parce que c'est une immigration même économique dont on n'a pas besoin.
Mais Louis,
on n'arrive pas à les intégrer.
Il vaut mieux arrêter.
Stop. Et reste
le patron du BNF dit
Louis Dragnel.
Oui, mais en fait, pourquoi on a besoin d'immigration? Parce qu'on casse les salaires. Et en fait, on est dans une spirale infernale où si on suit cette
logique-là, sur l'immigration,
on aura toujours plus besoin d'immigration.
Vous les renvoyez en Afghanistan?
Mais moi, je considère que quelqu'un qui
vous les renvoyez chez les talibans.
Alors Laurence, quelqu'un qui bénéficie de l'accueil, de l'asile, de notre générosité, s'il se comporte mal, on doit l'expulser, même si c'est dans un pays en guerre.
15 ans.
Alors, mais il n'y a pas de sujet. Si vous vous comportez mal, en fait, quand on vous accueille, vous êtes réfugié, la France vous donne tout, vous donne l'école, les logements sociaux, on vous donne tout, même la sécurité. Vous vous comportez mal, je suis désolé, vous enfreignez, vous rompez vous-même le contrat.
On n'a pas les moyens
dans ce cas-là, on les expulse.
J'ai juste
pas d'état d'âme,
juste une divergence. Le problème, c'est qu'on accueille des populations issues d'immigration. On a longtemps accueilli des populations issues d'immigration post-coloniale, il y avait un rapport à la France. Les nouvelles communautés qui arrivent n'ont aucun rapport à la France.
Il y a beaucoup de Maghrébins.
Vous avez raison.
Non, mais ceux qui arrivent, que ce soit des gens du Pakistan, du Bangladesh, d'Afghanistan, ils n'ont pas de rapport avec la France. On ne les accueille pas. On les fait venir, on ne s'en occupe pas.
Il vaut mieux leur dire de ne venir pas. Laissez-le terminer.
On parle du principe qu'il ne faudrait pas les faire venir. Mais dès lors qu'on les fait venir, que dans le pacte qui a été signé, on devra les accueillir, autant mettre en place une politique d'accueil pour leur expliquer, voilà où vous arrivez, voilà vos droits, voilà vos devoirs, et si vous ne respectez pas ça, ça va mal se passer.
Mais je suis d'accord avec vous,
on ne le fait même pas.
Allez, petite pause, on continue ce débat dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite dans Punchline.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil. Ça vous a fait plaisir?
Ça aurait pu. Sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe. Dites-lui de repasser en prendre un autre. Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les 3 brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
À ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même. Ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détails en point de vente. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde? DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,69€.
Les fraises ondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,69€.
Alors, ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh bah oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Alors toi, tu ramènes ta fraise parce que t'es mal embarqué.
En barquette patron, en barquette.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. 5,38€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
CNews et Europe 1, Punchline.
Toute l'actualité en débat, c'est dans Punchline. A tout de suite. Et maintenant, parlons aide à domicile dans l'instant Petit-Fils.
Bonjour Sonia. Vous avez fait appel à Petit-Fils voisin le Bretonneux pour votre mère, qui fêtera ses 100 ans cette année. Comment est-ce que Gerline, son auxiliaire de vie, l'accompagne au quotidien ?
Alors, du fait de sa stabilité, Gerline a pu faire connaissance avec maman de façon approfondie. C'est-à-dire qu'elle connaît ses petites habitudes, ses besoins, ses fragilités. Donc, il y a un grand respect pour la personne de maman. Donc, Gerline a pris maman en charge le matin pour faire sa toilette, pour l'aider au petit déjeuner, à s'habiller, pour l'occuper intellectuellement. Quant à moi, elle me permet d'être libre d'esprit. Donc, il y a une grande liberté d'être, autant pour maman que pour moi.
À bientôt pour un nouvel instant Petit-Fils.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
La Meute, c'est le nouveau thriller d'Olivier Ball. Des notables enterrés vivants, des réfugiés assassinés. Le cauchemar a un nom, La Meute. Un groupuscule terrifiant qui pourrait bien faire vaciller la société. Pour l'enquêtrice Sofia Giordano, une plongée glaçante dans la mécanique du fanatisme. La Meute d'Olivier Ball, un livre XO.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
CNews et Europe 1. Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. J'aimerais qu'on parle de ce qui se passe dans nos universités ou même les établissements de Sciences Po, parce que plusieurs d'entre eux aujourd'hui ont été brièvement bloqués par des manifestations pro-palestiniens. Rennes, Strasbourg, Saint-Étienne, Menton. L'université de Tolbiac a été bloquée aussi aujourd'hui à Paris. Et un étudiant de Sciences Po, j'aimerais qu'on écoute son témoignage, est venu chez Pascal Praud ce matin, très courageusement, parce que je pense qu'il risque beaucoup, et il l'a dit d'ailleurs à l'antenne, il dénonce ce qui se passe dans ses facultés, il dénonce une minorité qui bloque les cours pour l'immense majorité de ceux qui veulent juste étudier tranquillement. Écoutez son témoignage ce matin dans l'heure des pros.
Aujourd'hui, Sciences Po est dans une situation d'une extraordinaire gravité à cause justement de cette minorité étudiante qui parle beaucoup, qui est très bruyante et qui est en train en fait de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Donc en fait, on est menacé aujourd'hui par cette minorité. Et puis vous avez en face une direction qui ne dit rien, qui cède tout. On pourrait même se demander si on a encore une direction, parce que voilà, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis à Sciences Po. Et en réalité, j'ai connu deux directions, deux administrations provisoires. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'autorité. Et donc en fait, tout est permis. Aujourd'hui, des étudiants comme moi qui veulent simplement travailler, on est livrés à nous-mêmes.
Livrés à eux-mêmes et menacés parce que Éric Revel, je ne doute pas que malheureusement ce jeune homme, tout simplement parce qu'il a dit sa vérité, sera embêté. Mais c'est encore, pourquoi il s'empêcherait de débloquer les facs étant donné que on les sanctionne pas, on ne leur dit rien. Pourquoi il s'empêcherait ces
Moi,
activistes?
Moi, je voudrais retenir le nom de ce jeune homme, Pierre-Alexandre Zal. Mm-hmm. On le retienne tous parce qu'il va falloir suivre son parcours, savoir comment il va maintenant.
Évidemment,
après,
on va prendre de ses nouvelles.
Pascal Pro mm-hmm. ce matin, pouvoir évoluer. On sent que c'est voilà quelqu'un comme la plupart des gens de Sciences Po qui veulent travailler, mais il dit à mon avis deux choses essentielles. La première, c'est que la direction de Sciences Po, pour des raisons X ou Y, c'est absolument n'importe quoi. Je rappelle que les profs de Sciences Po sont évalués, ça c'est la nouvelle formule, par les élèves. Donc vous imaginez qu'un prof qui n'est pas dans l'idéologie...
Ils sont notés par les élèves.
Oui, non, mais il y a une évaluation. Mais oui,
vous êtes noté par les téléspectateurs.
C'est merveilleux. Ah ben tous les jours, mais nous on le sait.
Il y a une évaluation. Quand vous pensez que
non, mais c'est le monde à l'envers.
Sciences Po, moi j'emploie le terme à dessein qui me sera peut-être reproché, c'est couché devant les revendications d'une minorité en donnant l'absolution, si j'ose dire, aux réfractaires, à ceux qui avaient enfreint la loi.
Avec l'assentiment du gouvernement. Hein.
Oui, alors
la bénédiction de Mme Retailleau.
Qui parfois qui mal avec la sémantique et... a dit.
Elle est contre les blocages.
Voilà, elle est contre les blocages. Attention, on a peur.
Mais l'accord
mais
est.
Si vous voulez, il n'y a pas, y a pas de direction. Ouais, et à l'instar de ce qui se passe dans les plus grandes facs américaines, à Columbia ou MIT ou Harvard, en fait, vous avez l'importation. Alors pas seulement du conflit israélo-palestinien en France. Vous avez l'importation de ce wokisme le plus pur, le plus incarné à Sciences Po, le plus dur, qui est en train, pardonnez-moi, de submerger. Et oui, il a raison. C'est le deuxième point. C'est que vous êtes dans une école, paraît-il, d'élite, où il y a 14 000 élèves pour 200 révolutionnaires en peau de lapin. Mais ces gens-là, ils ont aussi peur pour leur avenir? Pourquoi? Parce que en fait,
ils vont tuer l'école, oui.
Mais les 200 révolutionnaires en peau de lapin, ils sont en train de donner une image de Sciences Po qui est pas du tout celle que les partenaires. D'ailleurs, Valérie Pécresse courageusement, la présidente.
L'image de l'école est considérablement dégradée là.
Évidemment. Tant pis. Compteur à zéro.
Non mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des parents qui sont terrifiés à l'idée que leurs enfants vont aller à Sciences Po. Des parents de la communauté juive, faut dire qu'ils ne sont pas prêts d'envoyer leurs enfants à Sciences Po.
Vous avez vu le sort qui est réservé aux étendus.
C'est imaginable.
Ils n'osent pas rentrer dans les amphis.
Mais parfois, ils sont chassés des amphis.
Sabrina, un petit mot après, on va écouter.
De ce qui se passe à Sciences Po, comme dans toutes les autres universités, c'est l'entrisme islamiste dans les institutions, des études supérieures. Ça, c'est le vrai problème. Effectivement, il embrase le wokisme, il embrase l'intersectionnalité, à l'instar des universités américaines. On sait d'où ça vient, c'est la French Theory, c'est un import-export des névroses de la déconstruction du savoir, donc de la déconstruction de la blanchité, donc de la déconstruction de la race, donc de la déconstruction...
Oui, enfin là, c'est la haine d'Israël, Sabrina. Oui, c'est très basique.
C'est la haine du
juif. C'est le soubassement théorique à tous ces petits passages à l'acte là auxquels on assiste. Et moi, j'aimerais rappeler qu'à l'instar justement des États-Unis, Claudine Gay a dû démissionner. Oui. Voilà, la présidente d'Harvard, suite à une enquête parlementaire. Moi, j'aimerais bien que dans ce pays, puisque
il y ait des enquêtes parlementaires.
Voilà, mais j'aimerais bien Madame Retailleau et que tous les directeurs de ces institutions soient entendus, auditionnés et sanctionnés, comme ça s'est fait à MIT, comme ça s'est fait à UPenn, comme ça s'est fait à Harvard. On ne peut pas parler d'autorité s'il n'y a pas d'exemplarité.
On va avancer un peu parce que j'évoquais tout à l'heure dans mon sommaire le fait qu'il y ait des kéfiers et la France insoumise.
Oui.
Il y a les drapeaux palestiniens et les drapeaux de la France insoumise dans tous ces mouvements étudiants. Aujourd'hui, Mathilde Panot et Rima Hassan, qui est la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée et candidate aux européennes, ont été entendues par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme, parce qu'elles ont tenu des propos le 7 octobre qui ont valu une plainte, que leur ont valu une plainte, et donc instruites par la justice. Et il y a eu une passe d'armes cet après-midi à l'Assemblée nationale entre Manuel Bompard de la France Insoumise et Éric Dupond-Moretti. On va écouter cet échange, écouter d'abord Manuel Bompard, puis Éric Dupond-Moretti, parce que c'était assez musclé.
Désormais, votre autoritarisme se déplace sur le terrain des idées. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celle de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police. Amnesty International alerte sur la situation préoccupante des droits humains en France. La Commission nationale des droits de l'homme dénonce une circulaire du garde des Sceaux qui dévoie l'antiterrorisme pour museler les voix de l'opposition.
La justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. C'est comme ça que vous l'envisagez. Il y a des jours, on préférerait être sourd que d'entendre ce que l'on entend. Vous parlez d'instrumentalisation de la justice. C'est votre groupe qui a déposé contre moi une plainte scandaleuse pour un acte administratif. C'est vous qui avez demandé au procureur général de former un pourvoi en cassation. C'est vous qui, tous les soirs, avez tweeté pour que je sois condamné. Vos amis à vous, ce sont les mollas, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. Personne n'est au-dessus des lois, pas plus madame Panot qu'une autre.
Et Éric Revel, oui, effectivement, il le colle au mur, là, pour le coup.
Ah, il le colle au mur, ça fait longtemps qu'on n'a pas, en tout cas, trouvé un Éric Dupond-Moretti avec autant de verve. Par moments, il redevient le grand pénaliste qu'il a été. Bon. Mais sur le fond, je vais vous dire quand même deux choses. Madame Panot, elle est présidente d'un groupe démocratiquement élu à l'Assemblée nationale. Alors, vous n'allez pas me faire le procès de défendre les journalistes et les filles. Je dis simplement que, attention quand même à une chose, c'est que là, on lui colle l'accusation d'apologie du terrorisme, suite à un communiqué, si j'ai bien compris. Bon, si la procédure n'aboutit à rien, alors, à mon sens, le retour de boomerang va être terrible, parce que LFI dira, en fait, vous l'avez convoqué, c'est donc une atteinte à la liberté d'expression, puisque il n'y a rien dans la procédure. Et là, du coup... Voilà, donc il y a quand même un sujet.
Et puis c'est le problème de la séparation
des pouvoirs. Vous voyez, pour elle comme pour d'autres. C'est-à-dire que là, vous convoquez quand même la présidente d'un groupe à l'Assemblée nationale.
Ah ben oui, ils en ont fait des caisses.
Non, mais
caisses,
je suis d'accord, ça est vrai, on le dit à longueur de plateau.
Mais je ne suis pas sûr que juridiquement ça tienne. Parlons du fond.
Attendez, pas tous en même temps.
Plus, si ça ne tient pas,
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y avait d'autres propos qui ont été tenus par Mathilde Panot et Rima Hassan qui étaient autrement plus choquants. Et qui, à mon avis, pénalement, aurait pu retenir un peu plus l'attention des policiers qui l'ont convoqué. J'ai bien lu le communiqué qui pose problème. On peut le trouver nauséabond, tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'au regard du droit français, ça va être compliqué de démontrer que c'est de l'apologie du terrorisme.
Attendez. Pas tout le monde.
Le Hamas était un groupe de résistance.
Oui,
Pardon.
Pas lorsqu'on est député et qu'on le dit en tant que député. C'est-à-dire que quand on est député...
Elle l'avait dit dans un média.
Non, elle l'a dit en tant que présidente de groupe.
Non, je parle d'Obono. Elle l'avait dit dans un média.
Oui, mais même... On ne peut pas... Parce que c'est le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs.
Oui, c'est ça.
Un pouvoir politique et la justice ne peuvent pas attaquer des opposants en fonction de ce qu'ils ont déclaré. Et oui, mais c'est ce qui se passe un peu là.
Ben oui, c'est ça qui est souligné.
Mais des déclarations, il y en a à l'appel.
Oui,
mais
on va sortir du champ de la plainte ou pas. Sabrina Medjeber.
Que ce soit de toute façon concernant le conflit israélo-palestinien ou que ce soit CNews, les journalistes de CNews et tous leurs contradicteurs, de toute façon, à partir du moment où vous affichez une, ne serait-ce qu'une nuance intellectuelle dans le débat, vous êtes de facto muselé, on vous colle une cible dans le dos. Je rappelle quand même, pardon, Coco, la dessinatrice de Libération, après un tweet de Madame Sophia Chikirou,
ancienne de Charlie Hebdo.
Voilà.
On repasse au revoir Philippe Val.
Elle a dit, vous n'aurez pas même, mais vous la méritez. Ça s'appelle une fatwa. Elle est sous protection policière. Mm-hmm. Comment il s'appelle Thomas Porte, pareillement, qui s'est trompé par rapport à un pseudo-journaliste franco-israélien qui aurait participé au génocide de Gaza, etc. Suite à une erreur de compréhension journalistique, il a attaqué ce jeune franco-israélien. Il est sous protection policière, sa famille également. Donc, pardon, mais la France insoumise n'a aucune leçon, vraiment, liberté d'expression. Ce sont les premiers à utiliser la tactique première des islamistes, c'est-à-dire lancer des fatwas, des raids numériques, cyberharceler, menacer, conspuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, tous ceux qui ne s'allient pas à la cause, justement, non pas palestinienne, parce que c'est pas la cause palestinienne. Ces gens-là ont les mains griffues sur le Hamas. D'ailleurs, Éric Dupond-Moretti, avant même cette missive à l'Assemblée nationale, il l'a dit. c'est le vote des barbus qui intéresse Jean-Luc Mélenchon. Monsieur. Quant à Sciences Po, par exemple, on sait, selon une étude du CEVIPOF, il a fait 55% aux élections présidentielles de 2022. Donc, c'est tout cet échantillonnage qu'il faut prendre en
c'est
compte.
C'est son écosystème.
Que, mais... voilà, que ces étudiants font une OPA.
Non, mais qui est pas,
une OPA
qui est
sur la
décision. Vous avez raison,
du terrorisme.
Sabrina.
C'est ça qui m'inquiète.
Non, mais François Pupponi.
Je vais juste terminer, Laurence, parce que vraiment, j'y tiens.
Allez-y.
Aujourd'hui, des étudiants juifs ont peur. Les parents des étudiants juifs ont peur. Qu'est-ce qui va se passer? On va leur prêter des noms pour qu'ils puissent aller étudier ailleurs que leurs écoles. On va créer des campus communautaires pour les étudiants juifs parce qu'ils ont peur, malheureusement, d'aller à l'école et qu'on les reconnaisse. Jusqu'où va cette démarche mortifère de la France insoumise depuis le 7 octobre? Moi, je suis désolée, je suis très concernée quand j'entends que les actes antisémites montent de plus de 1000%. Un monsieur dans le 20e qui sort avec sa kippa, il se fait mortellement agresser. Est-ce qu'on les entend, ces gens-là, soutenir justement les victimes de cet antisémitisme
qui s'avère
être en France? Pardon, je termine là-dessus. Que ça ait pu concerner les Français de confession musulmane ou les Français de confession catholique, j'aurais eu la même colère. Mais quand je vois ce qui se passe dans ce pays, que notre France est abîmée par un antisémitisme crasse et qui est relayé, alimenté par la France insoumise depuis le 7 octobre, alors ils ont beau utiliser toutes les rues sémantiques qu'ils veulent, camper, rescamper, etc. Il n'empêche que, même s'ils ne sont pas les soutiens officiels, en tout cas, ils sont les idiots utiles de l'islamisme et du terrorisme en France.
Qui n'est pas l'ambiguïté. Moi, je dénonce depuis des années, donc j'ai aucun problème là-dessus. Et on est tout à fait en phase, on est d'accord. Ce que je dis, c'est que dans le cas présent de ces deux auditions, j'ai bien peur qu'à la fin, surtout pour Mme Panot, elle s'en sorte vont continuer.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'elle est protégée par son immunité parlementaire et par la séparation des pouvoirs. Et c'est ça qui me fait peur. Mmh. C'est qu'elle va pouvoir continuer à défendre le Hamas, à avoir des propos qui sont de l'antisémitisme de fait.
Et dire que le droit est avec elle.
En toute impunité, parce que la justice va dire elle est couverte et donc elle peut. C'est ça qui me fait peur.
Éric Revel.
Oui, non, c'est exactement ce que je voulais préciser. Moi, je dis suffisamment ce que je pense de LFI, des tweets toujours ambigus, pervers, etc. Mais vous savez. Je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur une chose, c'est que, au-delà du respect qu'on doit à la communauté musulmane, la radicalisation de l'islam en France via les frères musulmans est un sujet qui devrait intéresser tous les pays occidentaux, Parce qu'en réalité, nous sommes dans une culture judéo-chrétienne, et on voit bien ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, un incroyable papier dans le Figaro. Non, me disait, mais c'est pas nouveau, mais moi j'ai découvert. À Hambourg, vous avez une partie des islamistes radicalisés qui réclament le califat à Hambourg.
Interdit en Arabie, c'est
fait. Ils réclament le califat à Hambourg. Madame Merkel, elle a accueilli.
Un million de Syriens qui fuyaient l'islamisme.
Et en fait, on se retrouve dans cette situation. Donc faut pas se méprendre. Si on défend les valeurs qui sont les nôtres, alors on doit s'opposer avec fermeté et être très vigilant sur tout ce qui se passe, notamment sur la communauté juive. Moi, vous savez, j'ai des discussions là où j'habite avec des personnes juives, je ne savais pas qu'elles étaient juives, peu importe, et qui me disent, les gens de CNews, je regarde l'émission de Laurence Ferrari, vous avez du courage, vous avez du courage. J'ai dit, mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? La personne est juive, et me dit, vous savez... je ne sais pas si on doit pouvoir continuer à rester dans ce pays.
Bien sûr,
on ne se sent plus bien. La déclaration de M. Attal, le réalisateur, il a tout à fait raison.
Attal, ouais.
En fait, il y a une espèce
Il dit qu'il y a une orgie d'antisémitisme.
Mais bien sûr. Et les gens des LFI, à l'insu de leur plein gré, juste pour faire croître leur petit butin électoral, sont responsables de ça.
Voilà. Allez, petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité. 18h32, CNews Europe 1 avec Simon Guilin. Simon.
Benjamin Netanyahou promet une offensive sur la ville de Rafah avec ou sans accord de trêve avec le Hamas. Il a affirmé que l'armée israélienne entrerait dans cette ville du sud de l'enclave palestinienne. L'idée que nous allons arrêter la guerre avant d'avoir atteint tous nos objectifs est hors de question, a ajouté le Premier ministre israélien. Un garçon de 14 ans a été tué dans une école à l'épée ce matin dans l'est de Londres. Le suspect a été rapidement arrêté par la police qui a exclu immédiatement l'acte terroriste. 4 personnes, dont 2 policiers, ont également été blessées dans cette attaque. Et puis à New York, Donald Trump condamné à une amende de $9,000 pour outrage lors de son procès. Le juge a estimé que l'ancien président des États-Unis avait enfreint son interdiction de s'en prendre aux témoins ainsi qu'aux jurés. Donald Trump est jugé depuis 2 semaines maintenant pour des paiements dissimulés à une ancienne star de films pornographiques, Laurence.
Merci Simon Guilin. Petite pause, on se retrouve dans un instant. On reprend notre débat sur l'entrisme de la France insoumise dans nos universités. Vous vouliez encore dire quelque chose, Sabrina Medjeber. On accueillera aussi Philippe Val, qui est éditorialiste sur Europe 1 et qui viendra nous nous parler de son livre Rire. Ça fait du bien de rire. À tout de suite dans Punchline.
C'est Elisabeth Assayag.
Europe 1, la France bouge.
À quelques semaines des Jeux d'été, comment se préparent les entreprises locales au savoir-faire français? Pour cette sixième étape de la saison avec les chambres de commerce et d'industrie, nous serons ce soir à Anglette, près de Bayonne. Jacques Héré, trois start-up locales autour d'Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, qui endossera le rôle du coach.
La France bouge, émission spéciale depuis Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec la CCI.
Alors, je vous donne rendez-vous ce soir, nouvel horaire pour La France bouge, 21h, 22h sur Europe 1. Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait deux jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R, la mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale. Prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Carrefour. Quand vous me dites ronde, ferme, brillante et charnue, ça vous fait penser à... Eh bien, je vous réponds que les tomates grappes Origine France sont au prix le plus bas de 1,99€ le kilo seulement. Alors ?
Ah oui, aussi.
Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr. Punchline sur CNews et Europe 1.
Des débats, de l'analyse, du décryptage, c'est dans Punchline. À tout de suite.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores? Réponse ce soir dès 21h sur Europe 1 dans La France bouge, présentée par Elisabeth Assayag avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Amazon offre jusqu'à 8 000 € pour la formation professionnelle. Grâce à cela, Daniel a suivi une formation de développeur logiciel. Maintenant, il considère le son de son clavier comme la plus belle musique qui soit. En 2 ans, il est passé de préparateur de commandes au métier de ses rêves. Et même son fils trouve qu'il se débrouille pas si mal en codage. Ce qui n'est pas peu dire de la part d'un adolescent. Chez Amazon, nous sommes engagés envers la formation et l'évolution des carrières, sous condition d'éligibilité.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre ?», répondent « oh non, merci, là je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « oh non, 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 pas de fromage non plus, là c'est... » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange en fait. Hein ? Chez Intermarché, pour l'achat de 2 packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le 3e est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
Original, très créatif.
18h38, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec le babillage de Louis de Ragnel, Happy Pony, Eric Revel.
Le babillage.
Sabrina Medjeber et nous a rejoint Philippe Val. Bonsoir Philippe, journaliste, bonsoir, éditorialiste sur Europe 1. Vous parlez du rire dans votre livre,
l'Observatoire.
Beaucoup rigolé pendant la pub. Pourtant, les sujets que nous évoquons sont extrêmement graves, extrêmement lourds. On évoquait l'entrisme de la France insoumise dans nos universités, dans la fabrique Michaëlite qu'est ou a été Sciences Po aujourd'hui, ça vous surprend ou pas? Où tout était en gestation depuis des années?
Ah non, ça me surprend pas.
Bien avant même le massacre de Charlie Hebdo.
Ah non, oui, ça ne me surprend pas. Mmh. On a alerté, nous, de notre côté, depuis bien, bien longtemps, avant la publication, même bien avant la publication des caricatures dès les années 90. Mmh. Il y avait des signes que à l'extrême gauche, on se saisissait tout d'un coup de thèmes négationnistes. Déjà dans les années 80, ça s'est fait, mais par exemple, l'Idiot International était un creuset de ça. Et Cabu et moi, on était très vigilants. Et on était en conflit très très ouvert avec Eder Nalier là-dessus, parce que on avait peur que ça soit comme un petit cancer dans un coin qui un jour allait métastaser follement. Mmh. Et c'est ce qui s'est produit, finalement.
Et je rappelle, vous avez dirigé la rédaction de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, l'antisémitisme, et vous le dites dans ce livre, il est en train de se répandre. Il a toujours été présent, mais là, il explose à la faveur de ce qui s'est passé en Israël.
Je pense que, contrairement aux apparences, on doit plutôt se réjouir de ce qui se passe en France, parce que c'est moins grave qu'ailleurs.
1000% d'augmentation des actes antisémites.
Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que la France n'est pas un pays antisémite. C'est un pays où des élites sont antisémites, et que c'est un pays dans lequel ces élites ont fait un pacte avec une partie de l'immigration qui est antisémite. Et cette immigration antisémite et ces élites antisémites forment un mouvement hallucinant, très fort, très violent, très dangereux. Là, Mélenchon porte une responsabilité politique monstrueuse dans cette affaire, puisqu'il a légitimé quelque chose d'absolument insupportable en France, qui est une honte. Mais regardez, on parlait de rolling, de sondages.
De sondages sur les Européennes.
On regarde tous les jours avec beaucoup d'attention. Plus l'antisémitisme de la France insoumise s'affirme, plus il descend. Vraiment, il n'arrive pas à monter. Il a fait le plein.
Donc c'est contre-productif.
Il a fait de cette partie de l'islam français qui est violemment antisémite, il a fait le plein de ses voix, les banlieues, etc. Il a fait le plein des bobos à Kéfier, crétins avec les mains rougies, enfin qui savent même pas ce qu'ils font. Il a fait le plein de tout ça, mais la population française est profondément hostile. La seule chose qu'on puisse regretter, c'est que on n'entende pas cette majorité hostile à l'antisémitisme qui est dans presque maintenant en France. Moi j'ai beaucoup voyagé à travers la France pendant très longtemps, pendant des longues années, partout. J'ai pas observé d'antisémitisme. Et parlant avec autrefois Lucie et Raymond Aubrac, des résistants, et ils me disaient, partout en France où on s'est caché, ils savaient qu'on était juifs, ils savaient qu'on était résistants, on n'a jamais été balancés. Donc il y a eu vraiment, de la part de la population simple,
Je partage votre avis. Très profondément, voilà. Très profondément. Louis Dragnel.
Il y a un paradoxe dans votre livre, je reviens à votre livre, moi je vous connais un peu, vous êtes très joyeux.
Toujours, c'est pour ça que son livre s'appelle Rire.
Vous voulez rire, mais l'actualité vous contraint systématiquement, dès que vous prenez position, à parler que de choses qui sont quand même terribles. Et c'est vous qui êtes forcé de ne plus être dans le camp du rire, mais dans le camp de ceux qui s'indignent, de ceux qui se dressent, de ceux qui déplorent. Et comment est-ce que vous vivez ce paradoxe-là ?
Alors déjà, j'aime pas l'indignation, parce que l'indignation...
Alors je retire l'indignation.
L'indignation, ça veut dire, je vous préviens, je suis indigné, ça veut dire que je vais pas être digne. Non. Et moi, je pense qu'il faut mieux rester digne, même quand on est en colère.
Bien vu.
D'une part. Et d'autre part, j'essaye de faire en sorte, quand je fais mes papiers pour Europe, comme je les faisais autrefois pour d'autres radios, ou dans Charlie, de faire en sorte qu'il y ait une espèce de... Enfin, je fais ce que je peux, hein, mais qu'il y ait une joie de vivre dedans, même quand je parle de choses tragiques. Et je pense d'ailleurs, et c'est ce qui est compliqué quand j'ai fait ce livre, compliqué à expliquer, c'est qu'il n'y a pas de vrai rire, il n'y a pas de vraie joie de vivre sans conscience tragique. Le reste, c'est de la galéjade sans intérêt ou de l'humour attendu, mais le vrai humour, la vraie joie de vivre, la vraie légèreté, la vraie frivolité, elle a profondément conscience du tragique. C'est, on pourrait dire, la pudeur du tragique. Et c'est une façon aussi de rester digne dans nos colères, digne dans nos douleurs, dans nos blessures. lorsqu'on est catastrophé, lorsqu'on perd des gens qu'on aime, quand on est malade, quand on écoute le matin les informations et qu'elles sont déshonorantes, arriver à en rire malgré tout. Mm-hmm. Moi, j'ai fréquenté des gens comme Marceline Lorient-Evans, qui était rescapée d'Auschwitz, comme vous savez, et avec Marceline, on a passé des nuits à rigoler. Mais dans ces nuits où on était morts de rire, il y a eu des moments où on se retrouvait à Auschwitz, où elle me parlait du camp, elle me parlait de ce qui se passait, elle me parlait des assassinats. On doit pouvoir... D'ailleurs, l'humour juif, c'est ça, c'est un humour tragique. Bien sûr. Et je pense que c'est un humour très européen. Depuis l'Antiquité, le rire judéo-grec est constructif. Il est scandaleux, il est transgressif, mais par les failles du scandale qu'il provoque, passent les sciences, mm-hmm. la philosophie, le droit, mm-hmm. Les arts.
Et c'est pour ça, Philippe Val, que les islamistes haïssent les humoristes.
Haïssent
les caricaturistes.
Haïssent.
Haïssent l'humour. Les blagues.
Absolument. Je pense que les vertus que prônent les religions, quelles qu'elles soient, les vertus théologales pour les chrétiens, la vertu de soumission, enfin, alors moi j'aime pas ça, mais bon, en islam, mais les vertus même laïques, de courage, d'honnêteté, de persévérance, toutes les vertus, sont morbides quand elles ne sont pas chapeautées par cette espèce de vertu suprême, ces vertus suprêmes que sont la frivolité, la joie de vivre, la légèreté, le sens de la déconnade, si vous voulez. Et il faut ça, sinon toutes les vertus deviennent dangereuses.
C'est ça la culture. François Bujoni, ça vous fait réagir.
Oui, une question, parce que vous dites qu'il y a donc une élite antisémite, un antisémitisme qui vient d'une partie de l'islam, qui se sont rencontrés. Une question que je vous pose, parce qu'elle me touche personnellement, moi j'ai été biberonné à une certaine gauche qui était tout sauf antisémite. Et on voit que parmi cette élite antisémite, il y a maintenant une grande partie de la gauche d'aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce qui provoque ce basculement et comment l'analyser ?
Alors déjà, parce qu'il y a à gauche, depuis le 19e siècle même, un antisémitisme qu'on trouve déjà chez Marx, qui pourtant est juif, mais son premier livre sur la question juive est un livre antisémite. À la base du marxisme, il y a un mouvement antisémite, une pensée antisémite, qu'on a retrouvé pendant l'affaire Dreyfus avec Jules Guesde, qui était anti-Dreyfusard, contre Blum, Jaurès, Zola, etc. Et c'est resté, il y a une gauche radicale qui a un gène antisémite, on l'a vu après la Seconde Guerre mondiale, ce qui est hallucinant, après la Seconde Guerre mondiale, c'est après la Shoah, c'est dans un pays communiste que revient un antisémitisme d'État avec Staline, les procès d'après 45. Donc c'est complètement... Et puis il y a effectivement une gauche qui n'a jamais été antisémite, qui va de Blum, etc., Rocard, tous ces... évidemment qui sont absolument pas antisémites, mais qui aujourd'hui n'est même plus représentée dans l'hémicycle. C'est incroyable.
À peine représenté.
Enfin, vous voyez, je veux dire...
Philippe Val, est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rire de tout sans risquer de choquer ?
Non, on ne peut rire de rien.
Ah, ça, c'est vrai. On est une époque triste, en fait.
On ne peut rire de rien parce que aujourd'hui, si vous voulez... Après, je vais...
Développer.
Je vais développer, mais on peut rire de rien parce que aujourd'hui, mon identité est offensée par la vôtre qui n'est pas la même que la mienne. Donc... c'est une identité, ça veut dire une origine, une sexualité, un âge, un sexe, enfin tout ce que vous voulez, tout ça fait que vous êtes différent et votre différence m'offense. Donc on peut pas rire de ce que je suis. Moi je pense que ce qu'on est et ce qu'on revendique d'être est une prison. On ne sait pas ce qu'on est. S'il y a bien une chose mystérieuse, c'est qui je suis, bah je sais pas. Je sais pas qui je suis, je sais pas d'où je viens, je sais pas où je vais, je sais pas quand je vais mourir, mais je sais pas pourquoi je suis si joyeux, c'est ce que disait un moine médiéval. Et là, je pense que les gens qui sont prisonniers de leur identité, alors je suis musulman, je suis homosexuel, je suis trans, je sais pas quoi, enfin bon. En réalité, on n'est pas ça, on peut pas se réduire à ça. C'est toujours sinistre de se réduire à son identité. On est une chose là maintenant, tout à l'heure je vais être autre chose, je vais essayer d'être au mieux de ce que je peux être demain, mais...
En même temps, on a une cohérence.
Plus, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, que j'ai connu personnellement, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions, qui était Clément Rosset, il disait « moi je me connais, mieux je me porte ». Et c'est vrai, il y a quelque chose de tellement...
C'est pas bon pour les psychanalystes, ça.
Si, parce que la psychanalyse ne permet pas de se connaître, elle permet de connaître les pièges qu'on se tend à nous-mêmes.
D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on peut rire de tout, Éric Revel, pour vous?
Alors, il y a la formule, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui.
Ça, c'est ce que dit des proches.
Aussi, des proches, je pense qu'on... Vous parlez des grands humains. Alors, attendez, Éric, votre question, et après on reparle des comiques et des humains.
En fait, il m'a soufflé, Philippe, mais... Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est évidemment la tragédie qu'a vécu le peuple juif avec la Shoah et la façon absolument incroyable dont ce peuple... Et je pense au dernier livre de Michel Vivorca qui s'appelle « La dernière histoire juive » chez Delanoë, qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que les histoires juives mêlent à la fois le tragique et le plus drôle. Tragique parce que le peuple juif a connu le destin qu'il a connu. Et en même temps, je pense que sur les Juifs, il n'y a pas des blagues plus drôles que les Juifs qui les écrivent. Et le bouquin de Michel, le sociologue, Vivorca, absolument sidérant. C'est-à-dire, vous éclatez de rire, mais vous éclatez de rire, j'allais dire, un peu devant votre livre, parce que vous dites, mais est-ce que j'aurais le droit d'éclater de rire sur cette blague-là si je ne suis pas juif, ce qui est mon cas? Ben, c'est une question qu'on peut se poser.
Alors,
c'est quelque chose de très scandaleux. J'ai un copain, un chanteur, Michel Jonas, qui est un réservoir inépuisable d'histoires juives, mais absolument à mourir de rire. Et voilà, je pense que c'est une très vieille histoire. Très, très vieille histoire. Depuis l'Antiquité, il y a un double discours, un double langage, triple sens, notamment qu'on retrouve chez les maranes, très extrêmement opprimés, en Espagne, et qui développent ce langage et qui a donné naissance à la littérature picaresque et notamment à des grands, grands livres fondateurs de la culture européenne comme Don Quichotte et d'une certaine façon les Essais de Montaigne. Parce que il y a toujours une façon de rire du tragique, une fois de plus, qui est la suprême intelligence, qui permet de se révéler aussi à nous-mêmes. Ce n'est pas un rire de connivence en disant « Bon, t'as des idées politiques qui sont les mêmes que les miennes, alors je vais faire des vannes sur Macron, t'aimes pas Macron, moi non plus, on va rigoler tous les deux parce qu'on dit du mal de Macron. »
Regardez Louis Dragnel,
ça n'a rien à voir. Non, mais je vais pas... Voilà. On est dans la fiction, ça n'a rien à voir. Donc, c'est l'humour de connivence. Le rire, c'est autre chose. Le rire, ça nous surprend nous-mêmes. On se surprend à rire d'une chose qu'on ne s'attend pas à nous faire rire. On ne s'attend pas à ce que ça nous fasse rire et ça révèle quelque chose de nous. Quand on est dans une salle de spectacle, autrefois, j'allais beaucoup voir les comiques les plus célèbres de l'époque.
Alors, vous avez vu qui ?
J'ai vu Fernand Reynaud, bien sûr, voilà. Qui était incroyable. Mm-hmm.
Les croissants.
Mais c'était incroyable.
Passez-moi le vin de Agnès.
Coluche, que j'ai connu à ses tout débuts, quand il était encore inconnu, et plus tard après. Et c'est des gens qui ont construit des personnages très forts pour pouvoir être libres. Ils ont construit des images d'eux-mêmes. Et ils ont été très très loin dans la transgression.
Ils n'avaient pas de limite, hein. Quasiment
non,
pas.
parce que je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant chez ces personnages. J'en parle
dans le livre.
J'en parle du général de Gaulle d'ailleurs, parce que de la même façon, parce que c'est on pourrait dire le même processus. Ce sont des gens timides, ce sont des gens souvent parfois dépressifs, qui ont des difficultés. Par exemple, Gainsbourg était quelqu'un d'extrêmement timide. Bon, et il crée un personnage fort. Très construit,
drôle.
Qui va leur permettre qui est eux-mêmes en mieux et qui va leur permettre d'être très libres. Eux-mêmes, ils feraient pas ça. Vous voyez, par exemple, je donne souvent cet exemple. J'étais avec Gainsbourg à une émission de radio il y a très très longtemps avec Mourouzi, c'est vous dire s'il y a longtemps. Bon, et on préparait l'émission de radio. On était pendant 2 heures dans un coin et on buvait des Orangina. Je me souviens bien, on a bu 3 Orangina en 2 heures. Et quand Mourouzi a commencé à interviewer Serge, qui était tout à fait clean, donc, et il était bourré. C'est-à-dire qu'il a répondu en faisant semblant d'être bourré, parce que d'accord. C'était son personnage de Gainsbourg, et qui lui permettait de dire des blagues, qui lui permettait de faire des choses un peu dingues, d'être ce Gainsbourg qu'on adore aussi.
Transgressif.
Bon. Et après, bon, l'un a peut-être rejoint l'autre, et là, c'est un peu trop, il a du mal à gérer les deux, comme parfois cela arrive. Mais il y a toujours chez ces personnages une espèce de création, et d'un personnage, moi, mieux que le jeu et moi que mieux que le moi et ou le moi mieux que le jeu et c'est dans cet espace que se crée un humour hyper transgressif, hyper libre et ça c'est très intéressant
Philippe Val, est-ce que le rire est de droite aujourd'hui? C'est une vraie question que vous posez dans le livre. Que, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le rire est plutôt à droite qu'à gauche?
Alors, le rire, est, de toute façon, il fait exploser les catégories de droite et de gauche. Un bon rire, il fait rire ensemble des gens de droite et de gauche. Et c'est peut-être ce qui nous manque le plus, parce que les gens de droite et de gauche peuvent de temps en temps se reconnaître dans leur humanité commune et être un peu plus attentifs à ce que disent les uns et les autres. Et si on rit pas assez ensemble, ça nous rend sourds à l'autre. Et le rire aujourd'hui est plutôt à gauche parce que il a été préempté par des humoristes de gauche. Donc on s'attend à ce qu'ils fassent des blagues de gauche. Du coup, c'est pas drôle. Enfin, bon, c'est pas drôle pour quelqu'un qui aime vraiment le rire
parce que c'est
attendu. Le rire est comme la perception idéale que l'on doit avoir du réel. D'abord, on est stupéfait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. On est stupéfait que le réel existe déjà. Et le rire, c'est une stupéfaction c'est une surprise qui nous prend et on se surprend à rire à quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc le rire de gauche n'est pas drôle. Soit il n'est pas drôle parce qu'il est de gauche, soit il est de gauche parce qu'il n'est pas drôle. Mais on pourrait dire la même chose de la droite quand il y avait des chansonniers autrefois après-guerre qui étaient très à droite et on s'attendait à ce qu'ils disent tout de droite et donc on s'ennuyait. On disait que c'était des vieux cons, tout ça, mais aujourd'hui on peut dire la même chose des humoristes de gauche. Ce sont des vieux cons qui tirent sur des vieilles ficelles,
toujours les mêmes.
Et voilà.
Bon, bah alors donc on peut rire de quoi, François Pupponi?
Et le rire en même temps, vous avez parlé de gauche et de droite.
Est-ce que ça existe? Le rire macroniste, il y a un rire macroniste.
Je file la métaphore sur Emmanuel Macron.
Le rire est en même temps. C'est-à-dire qu'il peut. Il est au-delà des catégories de pensée. Précisément, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui nous enrichit, qui nous donne un sentiment de liberté. Je sais pas, ça vous est arrivé forcément à table ou au spectacle.
Oui, c'est irrépressible, on sait pas pourquoi.
C'est irrépressible. Comme quand vous entendez une musique formidable par un grand interprète. C'est une forme supérieure du rire. Ça vous transporte au-delà du jugement. Vous ne jugez pas. Et c'est quand cette tristesse du jugement arrive que les choses s'éteignent. Mais quand on est surpris par la beauté des choses, on est dans une forme supérieure du rire.
Votre livre, Philippe Ball, aux éditions de l'Observatoire. Merveilleux livre. Et on n'oublie pas de rire quand même de temps en temps au milieu de cette sinistrose ambiante. Merci beaucoup d'être venu, Philippe. Merci Sabrina, Eric Revel, François Bupponi, Louis de Ragnac.
Merci Laurence.
Tout de suite, c'est Pierre de Villeneuve sur Europe 1 pour le 19h-21h. Pierre, bonsoir, au programme ce soir?
Au programme, ma chère Laurence, jusqu'à 21h, Haro sur les écrans avec la rapporteuse Axelle Dessin, le duel à l'Assemblée entre Manuel Bompard et Éric Dupond-Moretti, la liste DLR aux Européennes, on a le détail, et Guillaume Carayon sera avec nous, et Stéphane Bern pour la première sortie du roi Charles III. Voilà pour nous.
Demandez le programme. Merci beaucoup Pierre de Villeneuve pour Europe 1 Soir et sur Christine et sur CNews. C'est Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.
Europe 1 Matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Comme tous les mardis, dans quelques minutes, nous allons retrouver Yves de Risbourg en compagnie d'un nouvel invité pour parler énergie des territoires avec Antargaz.
Quand vous avez un brise-glace, ça vous paraît compliqué à gérer? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Alors que les TPE-PME ont bien du mal à recruter, l'APEC aide les entreprises à recruter le profil qui correspond vraiment à leurs besoins, notamment avec le service Sourcing Plus. Cet accompagnement personnalisé a permis à Eurogroup Consulting de recruter 3 talents seniors. Un service gratuit à retrouver sur apec.fr.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en 2 matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid, ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG, demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil. Ça vous a fait plaisir?
Bah, ça aurait pu. Sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe. Dites-lui de repasser en prendre un autre. Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les 3 brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
Ah bah, à ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même. Ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détails en point de vente. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Europe 1 Soir, 19h-21h,